Chapitre 24e, 14 arguments en faveur de Mrs. Quiverful. Nous savons combien terrible est la colère de la lionne quand, entourée de ses lionceaux, elle défend sa proie. Peu d'entre nous aimeraient aller déranger une chienne rongeant un os au milieu de ses petits. L'histoire de Médée et de ses enfants nous est bien connue. Mrs. Quiverful, quand son mari lui apprit les nouvelles, sentit s'éveiller dans son cœur la rage d'une lionne, la rapacité d'une chienne, la fureur et le désespoir de la reine si souvent représentés par la tragédie. Ne sachant pas qu'elle avait pu être le sujet de la communication de M. Slope, elle revint précipitamment près de son mari, aussitôt que la porte d'entrée se fut fermée sur le visiteur. Il était heureux pour M. Slope qu'il fût hors d'atteinte. La colère d'une telle femme, dans une semblable circonstance, lui fait peur à elle-même. S'il est un moment où l'on conçoive qu'une femme laisse flotter ses cheveux comme une furie, agite les bras, pousse des cris éclatants comme les sons d'une trompette, c'est lorsque la nature réclame en elle, non pour ses propres besoins, mais pour les besoins de ceux que son sein a portés, que ses mamelles ont allaités, pour ceux qui attendent d'elle leur pain quotidien, aussi naturellement que la créature l'attend de son créateur. Il n'y avait rien de poétique dans la nature de Mrs. Quiverful. Elle n'était pas une Médée. Irritée, elle exhalait simplement son irritation avec des intonations que l'on aurait pu noter toujours sans la moindre affectation. En cette circonstance, elle s'éleva à la hauteur de la tragédie. « Eh bien, ma chère, nous ne l'aurons pas. » Telles furent les paroles qu'entendirent ses oreilles quand elle entra dans le salon, tout rouge encore du feu de la cuisine. Et le visage de son mari parlait plus clairement encore que sa voix. « Quoi ? » dit-elle. « Qu'est-ce que nous n'aurons pas ? Qui dit cela ?» Et elle s'assit en face de son mari, les coudes sur la table, les mains croisées, et sa figure vulgaire, massive, mais agréable autrefois, tendue vers lui. Elle fut muette comme la tombe tant qu'il parla, et ce silence fut gros d'appréhension pour lui. Il raconta la chose sans suite, confusément, mais Mrs. Quiverful n'en comprit pas moins la douloureuse réalité. « Ainsi vous avez renoncé, » dit-elle. « Je ne pouvais accepter. Je n'avais pas de témoin de la proposition de M. Slope, en admettant même qu'elle pût engager l'évêque. Il valait mieux pour moi rester en bon terme avec des hommes comme eux que de batailler pour une chose que je n'aurais jamais obtenue. « Des témoins ? » cria-t-elle, en se levant vivement et en arpentant la pièce. « Faut-il que des prêtres aient des témoins quand ils affirment qu'une parole leur a été donnée ? Il a fait la promesse au nom de l'évêque, et s'il doit être violé, je veux savoir pourquoi. N'a-t-il pas dit positivement que l'évêque l'avait envoyé pour vous offrir la place ? Il l'a dit, ma chère, mais cela importe peu maintenant. « Cela importe beaucoup, Monsieur Quiverful, des témoins. Et venir dire que votre honneur serait mis en cause parce que vous désireriez assurer le bien-être de 14 enfants ? Si, cela importe beaucoup, et ils le verront bien, et je vais le crier à leurs oreilles, et dans tout Barchester. Vous oubliez, Laetitia, que l'évêque peut donner des places. Attendre ? Nourrirons-nous nos enfants en attendant ? Attendre permettra-t-il de lancer George et Tom et Sam ? Permettra-t-il à mes pauvres filles de se décharger d'une partie de leurs travaux pénibles et humiliants ? Attendre rendra-t-il Bessie et Jane capables d'être institutrices ? Attendre payera-t-il tout ce que nous avons acheté à Barchester la semaine dernière ? Nous n'avons pourtant que cela à faire, ma chère. Le désappointement est aussi cruel pour moi que pour vous. Et pourtant, Dieu m'en est témoin, je le ressens plus vivement pour vous que pour moi. » Mrs. Quiverful, qui avait les yeux fixés sur ceux de son mari, vit une larme couler sur ses joues. C'était plus que son bon cœur n'en put supporter. Courant à M. Quiverful, qui s'est élevé et tourné le dos à la cheminée, elle le prit dans ses bras et fondit en larmes. « Vous êtes trop bon, trop facile, trop timide. Ces gens-là, quand ils ont besoin de vous, vous font patte de velours. Quand vous ne leur êtes plus utile, ils vous jettent de côté comme un vieux soulier. C'est la seconde fois qu'on vous a traité ainsi. Dans un certain sens, ce n'est pas une mauvaise chose. L'évêque se sentira obligé à faire quelque chose pour moi. » « En tout cas, il en entendra parler, » dit la dame, reprise de sa première colère. « Il en entendra parler, et elle aussi. Elle ne connaît pas Laetitia Quiverful. Si elle pense que je vais rester bien tranquille à me désoler après tout ce qu'elle m'a dit au palais, si elle a le cœur tant soit peu sensible, je la ferai rougir d'elle-même. » Et elle arpenta de nouveau la pièce, frappant lourdement du pied le plancher. « Dieu du ciel, quel cœur faut-il qu'elle ait pour traiter ainsi le père de 14 enfants ?» M. Quiverful se mit en devoir d'expliquer que Mrs. Proudie n'avait rien à voir dans l'affaire. « Ne me dites pas cela, » dit Mrs. Quiverful. « Je sais mieux que vous comment les choses se passent. Tout le monde ne voit-il pas que Mrs. Proudie est l'évêque de Barchester et que M. Slope est sa créature? N'est-ce pas elle qui m'a fait la promesse, comme si la nomination dépendait d'elle? Je vous le dis, c'est cette femme qui l'a envoyée ici aujourd'hui, parce que pour une raison ou une autre, elle veut retirer sa parole. Vous vous trompez, ma chère. Voyons, M. Quiverful, ne soyez donc pas si crédule, croyez-moi. L'évêque est aussi ignorant de tout cela que Jemima. » Jemima était la petite fille de 2 ans. « Et si vous voulez un bon avis, vous irez au palais et vous le verrez lui-même. » M. Quiverful, qui dans cette circonstance ne voulait pas se laisser accuser de crédulité, dit à sa femme de quel ton M. Slope avait parlé de l'ingérence de Mrs. Proudie dans les affaires du diocèse. Tout à coup, une pensée surgit dans l'esprit de la dame. L'idée lui vint d'essayer une nouvelle ligne de conduite. Si, après tout, Mrs. Proudie ignorait en effet cette visite de M. Slope, en ce cas, ne serait-il pas possible que Mrs. Proudie fît cause commune avec elle dans cette affaire, soutint son amie et peut-être la fit triompher en dépit de l'opposition de M. Slope? Mrs. Quiverful ne dit rien de ce nouvel espoir qui naissait dans son cœur, mais écouta, avec une patience qui ne lui était pas ordinaire, ce que son mari avait à dire. Tandis que celui-ci expliquait encore que, selon toute probabilité, on prêtait à Mrs. Proudie une influence et un pouvoir qu'elle n'avait pas, elle avait combiné déjà toute sa stratégie, sans dévoiler d'ailleurs ses intentions. Elle secoua la tête d'une façon menaçante, tandis qu'il continuait son récit. Et quand il eut fini, elle se leva pour quitter la pièce, faisant observer simplement que c'était un traitement bien cruel. Elle demanda ensuite à son époux s'il lui était indifférent de dîner plus tard que d'habitude, et sur sa réponse affirmative, elle se disposa à accomplir sa résolution. Elle était décidée à se rendre sur le champ au palais, et cela, si c'était possible, avant que Mrs. Proudie pût avoir un entretien avec M. Slope. Elle devait prendre un air résigné, malheureux, ou se montrer indignée et violente dans ses réclamations, selon la manière dont elle serait reçue. Elle était confiante dans sa force. Enhardie par les besoins pressants de 14 enfants, elle se sentait capable de se frayer un chemin à travers des légions de domestiques et de faire irruption s'il le fallait, dans la chambre de celle qu'il avait si indignement traitée. Elle n'avait point de mauvaise honte et était déterminée, ainsi qu'elle l'avait dit à son mari, à crier ses doléances sur la place du marché, si on ne lui faisait point justice dans le palais. Si l'on persistait à commettre l'iniquité dont avait parlé M. Slope, on ne le ferait point sous le manteau. Tout l'univers en aurait connaissance. Dans sa disposition d'esprit, Mrs. Quiverful songea peu à sa toilette. Elle noua son chapeau sous son menton, jeta un châle sur ses épaules, s'arma du vieux parapluie de coton de la famille et se mit en marche pour Barchester. Un voyage au palais n'était pas chose aussi aisée pour elle que pour notre ami l'archidiacre. Plumstead est à 9 miles de Barchester, Puddingdale à 4 seulement. Mais l'archidiacre n'avait qu'à faire atteler et son rapide trotteur l'amenait en ville en moins d'une heure. Il n'y avait pas de voiture dans la remise du presbytère de Puddingdale, pas de rapide trotteur à l'écurie. M. Quiverful et sa famille n'avaient d'autre moyen de transport que celui que la nature a donné à tous les hommes. Mrs. Quiverful était une forte femme, d'un âge mûr, peu habituée à marcher. Dans sa cuisine, les chambres de sa maison, elle était active, mais elle n'était point faite pour arpenter les routes. Aller à Barchester et en revenir au milieu du jour, en plein mois d'août, c'eût été une tâche tout à fait au-dessus de ses forces. Il y avait dans la paroisse, à 1/2 mile de la cure, sur la route de la ville, un honnête et obligeant fermier, confortablement pourvu des biens de ce monde et assez désireux des félicités de l'autre, pour suivre avec régularité les offices de l'église. Plus d'une fois déjà, Mrs. Quiverful avait fait appel, et non en vain, à la bienveillance de cet homme dans ses plus pressants besoins. Elle se présenta à sa porte, et après avoir expliqué à sa femme qu'une affaire urgente l'appelait à Barchester, elle pria le fermier Subsoil de l'y conduire dans sa carriole. Le fermier y consentit, et aussitôt que Prince eut le cou dans le collier, on partit pour la ville. Mrs. Quiverful ne mentionna pas l'objet de son voyage, et le fermier s'abstint de questions indiscrètes. Elle le pria seulement de la déposer au pont qui donnait entrée dans la ville, pour l'y reprendre 2 heures après. Le fermier promit d'être exact. La dame, s'appuyant sur son parapluie, se dirigea du côté du parvis et en peu de minutes elle était à la porte du palais. Jusqu'à ce moment, elle n'avait éprouvé aucune appréhension relativement à l'entrevue qu'elle allait avoir. Elle était impatiente d'adresser à qui de droit ses réclamations et, si l'on n'y avait pas égard, de se proclamer bien haut victime d'une injustice. Elle était allée une fois déjà au palais, mais c'était pour y adresser des remerciements. « Venez remercier d'une faveur reçue, vous trouverez un accès facile auprès des grands. Venez demander une faveur, la porte s'ouvrira plus difficilement. Réclamez-vous l'exécution d'une promesse, elle s'ouvrira moins encore. » Mrs. Quiverful savait tout cela. Elle savait aussi que son parapluie de coton et son châle fané ne commanderaient pas le respect aux domestiques du palais. Si elle était trop humble, elle ne réussirait pas. Et pour imposer à la valetaille avec un châle comme celui qu'elle avait sur les épaules et un chapeau comme celui qu'elle avait planté sur sa tête, il lui fallut un port, une dignité personnelle dont la nature ne l'avait pas douée. Enfin, Mrs. Quiverful savait encore une chose, elle devait se faire connaître comme la femme d'un gentleman et d'un prêtre et se montrer en même temps familière et digne. La pauvre femme ne voyait qu'un moyen de surmonter les difficultés qui se dressaient devant elle au début même de son entreprise. Elle y eut recours. Si bas que fussent les fonds à Puddingdale, elle avait sur elle une demi-couronne dont elle était décidée à faire le sacrifice. Elle était, dit-elle au majestueux valet de pied de Mrs. Proudie, « Mrs. Quiverful de Puddingdale, femme du révérend Monsieur Quiverful. » Elle désirait voir Mrs. Proudie. Le larbin ne savait pas si sa maîtresse était sortie ou occupée dans sa chambre. Il craignait que, pour une raison ou pour une autre, elle ne pût recevoir. Il invita Mrs. Quiverful à s'asseoir dans la salle d'attente, tandis qu'il s'informerait auprès de la femme de chambre et de madame. « Il faut que je la voie, mon ami, » dit-elle. Elle mit sa carte et la demi-couronne dans la main du domestique et prit une chaise. Dut-elle à ce moyen de séduction de réussir, ou Mrs. Proudie voulait-elle réellement la voir ? Il ne nous importe pas de le savoir. Le valet revint et, priant Mrs. Quiverful de le suivre, l'introduisit devant l'évêque femelle du diocèse. Mrs. Quiverful vit tout d'abord que sa protectrice était d'humeur souriante. Les joies du triomphe et de la domination étaient peintes sur son front. Elle avait eu ce matin-là une contestation avec son mari sur un point important. Il venait d'être invité à passer 2 jours chez son archevêque. C'était un honneur qu'il avait ardemment désiré. Pas un mot dans le billet de sa grâce ne faisait allusion à l'existence de Mrs. Proudie. S'il se rendait à l'invitation, il devait s'y rendre seul. Cette nécessité ne créait pas un obstacle insurmontable à la visite et n'eût pas diminué beaucoup le plaisir de l'évêque s'il avait pu s'en aller à l'insu de Mrs. Proudie. Mais ce n'était pas possible. Il ne pouvait faire sa malle et partir avec son valet de chambre en disant simplement à la dame de ses affections qu'il serait probablement de retour pour le dimanche. Il y a des hommes, ne pourrions-nous pas dire des monstres, qui font de semblables choses. Il y a des femmes, ne pourrions-nous pas dire des esclaves, qui s'en accommodent. Mais le docteur et Mrs. Proudie n'étaient pas de ces catégories. L'évêque, après avoir battu quelque temps le buisson, fit comprendre à sa femme qu'il désirait vivement partir. La dame, sans battre le buisson, fit comprendre à son époux qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Il serait inutile ici de reproduire les arguments qu'on fit valoir de chaque côté. Il n'est pas besoin de dire quel fut le résultat. Les gens mariés le devineront sans peine. Quand Mrs. Quiverful fut introduite dans la chambre de Mrs. Proudie, celle-ci venait de quitter son mari. Mais avant de le quitter, elle l'avait vu écrire et cacheter la réponse à l'archevêque. Rien d'étonnant si son visage était tout sourire quand elle reçut Mrs. Quiverful. Elle aborda immédiatement le sujet cher au cœur de Mrs. Quiverful. « Eh bien, lui dit-elle, avez-vous décidé l'époque de votre déplacement ?» Cette femme, ainsi que l'avait appelée 1 ou 2 heures auparavant la pauvre Mrs. Quiverful, lui reparut sur le champ ornée de toutes les grâces qui peuvent parer la femme d'un évêque. Elle vit d'un coup d'œil qu'il s'agissait d'être larmoyante et que rien n'était à gagner par l'indignation, à moins toutefois qu'elle ne s'indignât de concert avec sa protectrice. « Oh, Mrs. Proudie, commença-t-elle, je crains bien que nous n'ayons pas à nous déplacer. »« Pourquoi non ?» demanda sèchement la dame, laissant tomber en un moment ses sourires et son air bienveillant, et abordant vivement l'affaire qu'elle jugea au premier coup d'œil être importante. Alors Mrs. Quiverful lui raconta toute l'histoire. À mesure qu'elle avançait dans l'exposé de ses griefs, Elle observa que plus elle chargeait M. Slope, plus les nuages s'amoncelaient sur le front de Mrs. Proudie et comprit que ce n'était pas elle que menaçait cet orage. Quand M. Slope était venu à Puddingdale le matin, elle l'avait considéré comme une créature de Mrs. Proudie. Elle voyait maintenant en eux deux adversaires. Elle s'avoua à elle-même sa méprise sans en éprouver d'humiliation. Elle n'avait de sentiment que pour les siens et s'inquiétait peu d'avoir tel ou tel pour ami ou pour ennemi, du moment où elle obtenait pour son mari la place dont ils avaient si grand besoin. Elle raconta son histoire, que Mrs. Proudie écouta presque sans mot dire. Elle expliqua comment M. Slope avait amené son mari à renoncer à ses prétentions et avait déclaré que l'évêque ne voulait pas d'autre conservateur que M. Harding. Enfin, elle bondit de sa chaise et priant Mrs. Quiverful de l'attendre, sortit de la chambre. « Oh, Mrs. Proudie, c'est pour mes 14 enfants, pour mes 14 enfants !» Telles furent les dernières paroles qu'elle entendit en fermant la porte.